Bon matin, Nouvelle Vie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ces applaudissements étaient très discrets pour l'ampleur de l'œuvre qui était faite là-bas. Est-ce qu'on pourrait acclamer ce que Jésus fait, ce que Dieu fait à travers son Église? C'est incroyable! Je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Si on ne se connaît pas, je m'appelle Jean-Philippe et je suis le pasteur de l'église Nouvelle Vie qui est à Québec. C'est toujours un privilège pour moi d'être ici, d'être à la maison ici pour moi, Nouvelle Vie à Longueuil. Merci de votre accueil. Je vous remercie aussi. On reçoit souvent des messages de gens de Longueuil qui nous écrivent, qui nous soutiennent en prière à Québec. C'est une grande église sur plusieurs sites, une même grande famille. Alors merci de vos soutiens, pasteur Claude. Merci de la confiance ce matin. Merci de me permettre d'apporter la parole. Je suis tellement reconnaissant de faire partie de l'Église Nouvelle Vie. On dirait qu'à chaque fois que je viens ici apporter la parole à Longueuil, il y a un nouveau site qui est ajouté. Et tous ceux qui croient que l'œuvre de Dieu au Québec n'avance pas, est au ralenti, ne connaissent pas l'Église Nouvelle Vie. Parce que combien savent que l'Église de Jésus avance au Québec? Non seulement ici à Longueuil, mais partout, partout dans la province. C'est extraordinaire. Et ce matin, Dieu m'a donné une parole pour nous et je prie vraiment que Dieu vienne se servir de ce message bien imparfait. Mais je prie que l'Esprit de Dieu vienne te saisir, toi, à ta place, ici à Longueuil ou en ligne, là où tu es aujourd'hui. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne traduire personnellement cette parole-là pour toi ce matin. Et tourne-toi vers ton voisin préféré et dis-lui, je m'excuse ce matin, mais le message est pour moi. Allez, allez, faites-le. Je m'excuse. Mais le message est pour moi. Et je prie que Dieu vienne se révéler personnellement à toi ce matin. Je prie ma prière toute la semaine alors que je me préparais pour ce moment. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne réveiller nos âmes ce matin. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne réveiller ceux qui sont endormis aujourd'hui. Et c'est parfait parce qu'on me dit que la première réunion, c'est la meilleure, c'est la plus enthousiaste. C'est ceux qui sont le plus réveillés. Est-ce que c'est vrai? Parfait. Ceux qui pensent que je dis ça à chaque réunion, c'est très mal me connaître. Si tu penses que je vais dire ça à la deuxième, c'est très, très mal me connaître. Mais je veux juste t'inviter à tourner avec moi dans le livre des Actes. Actes au chapitre 2. Si tu as ta Bible, je t'invite à aller avec moi. Si tu n'as pas ta Bible, tout va apparaître sur les écrans qui sont derrière moi. On va être dans Actes chapitre 2 ensemble pendant quelques instants ce matin. Et voici dans quoi on plonge ensemble. On plonge dans ce qui est la prédication de Pierre et qui est la prédication qui a donné naissance à l'Église telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Dans Actes 2, c'est un moment pivot dans l'histoire de l'Église, parce qu'à ce moment-là, ça a été le moment où 3000 personnes, d'un coup, en une seule réunion, se sont tournées vers Jésus, ont accepté le Seigneur, vont se faire baptiser. C'est une prédication de Pierre qui est là. Et on se retrouve 50 jours après la résurrection de Jésus. Il y a eu Pâques, on a célébré il y a quelques temps. Et on se retrouve à la Pentecôte. Et dans cette fête-là, c'est là que Pierre va prêcher son message. Et Pierre, c'est pas n'importe qui. Pierre a marché avec Jésus pendant les 3 années de ministère de Jésus. Pierre était avec lui. Pierre est un leader avec Jésus. Et Pierre n'a vraiment pas été parfait. Puis c'est une parole d'encouragement pour chaque personne imparfaite dans ce lieu, c'est-à-dire 100% de cette salle. Pierre qui marchait avec Jésus alors que Jésus va vers la croix. Pierre qui dit à Jésus, « Moi, Seigneur, jamais je vais te renier. Jamais. Si les gens te renient, il y en a un qui le fera pas et c'est moi. » Et devinez qui était le premier à le faire? Pierre. Pierre qui dit, non, je ne le ferai jamais. Puis finalement, c'est le premier à le faire, pas juste une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Puis dans cette saison-là, Pierre, lui, tellement découragé de lui-même, tellement déçu de lui-même, comme parfois nous-mêmes, on peut l'être. Pierre dit, non, pour moi, c'est comme s'il retourne à son ancienne vie, c'est un pêcheur de poissons, retourne à ses bateaux. Puis à ce moment-là, alors que tout le monde aurait pensé que c'était fini pour Pierre, Jésus va prouver la grâce, le message de l'amour et de la grâce de Jésus. Jésus va lui dire, Pierre, oui, tu me renies, mais maintenant, je veux te restaurer et je veux aller prêcher la Pentecôte. Non seulement, tu vas pas juste continuer de me servir, mais tu vas être celui qui va apporter le message, qui va donner naissance à l'Église. Et 2000 ans plus tard, nous formons encore cette Église-là. Et c'est ce Pierre-là qu'on retrouve dans Acte 2, celui qui avait renié, mais celui qui était restauré et qui maintenant va prêcher la naissance de l'Église. Et qui, alors que Pierre, rempli de l'Esprit, va prêcher ce message de la vision pour l'Église, puis on rentre dans ce message-là, dans Acte 2, les versets 17 à 21, ensemble. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Sera sauvée. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Les visionnaires et les rêveurs ». C'est un texte vraiment particulier dans Actes 2, alors que Pierre va être dans cette prédication qui va dire « Dans les derniers jours, Dieu va déverser son esprit ». Il faut comprendre que théologiquement, nous sommes dans cette période des derniers jours. Les théologiens vont faire référence à cette période entre le ministère de Jésus, son ministère, la croix, la résurrection de Jésus, et jusqu'au retour de Jésus. Cette période-là, c'est les derniers jours, et nous sommes dans cette période-là. Et la promesse de Pierre dans Actes 2, c'est qu'alors que nous allons être dans la période des derniers jours, l'Esprit de Dieu va être déversé sur le peuple de Dieu. Et toute personne qui va faire appel au nom du Seigneur va être sauvée. Pierre va décrire quelque chose de spécial. Il va décrire dans les derniers jours que les jeunes vont avoir des visions et que, là c'est mes mots, c'est les mots de Pierre, c'est pas les miens, c'est les mots de Pierre, il va dire, les vieillards auront des rêves. Pierre est en train de décrire que dans les derniers jours, Dieu va déverser son esprit sur les jeunes et les moins jeunes. Et les jeunes vont avoir des visions. Ils seront les visionnaires. Et les plus âgés auront des rêves de la part de Dieu. Et ce seront les rêveurs. Et l'œuvre de Dieu se bâtit pas juste avec des jeunes visionnaires, mais se bâtit aussi avec des gens plus avancés en âge qui sont encore des rêveurs pour l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu se bâtit avec les jeunes d'un côté et les plus avancés en âge de l'autre côté. Quelqu'un devrait se risquer un son au moins, dire un onomatopée, quelque chose. Où l'œuvre de Dieu, Pierre est en train de décrire que Dieu va déverser son esprit pour que toutes les générations puissent bâtir l'œuvre de Dieu. Que Dieu veut se révéler et que Dieu veut se servir des visionnaires, mais aussi des rêveurs. Nous, on lit cette prédication-là de Pierre plusieurs années plus tard. Mais il faut comprendre que ce message-là de Pierre est tout sauf politiquement correct à l'époque. Alors que Pierre se lève devant des milliers de personnes pour prêcher ce message-là, Pierre est en train de briser toutes sortes de barrières à l'époque. Pierre brise, comme par exemple, la barrière culturelle entre les hommes et les femmes. Alors que Pierre va dire dans son message, « Dans les derniers jours, Dieu va déverser son esprit sur vos fils et sur vos filles, et les deux prophétiseront. » C'était très, très, très contre-culturel de prêcher ça à l'époque où on pensait que les femmes étaient à l'époque de Jésus, dans toute la société de l'époque, les femmes étaient dans une classe sociale inférieure aux hommes, où les hommes étaient supérieurs. Mais Pierre arrive, rempli de l'esprit, il dit non, 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 dans le royaume de Dieu, Dieu va déverser son esprit autant sur les hommes que sur les femmes, et les deux vont pouvoir prophétiser. Je m'attendais à un amen féminin beaucoup plus soutenu que ça à ce moment-là. Pierre brise cette barrière culturelle entre les hommes et les femmes. Et Dieu va dire à travers Pierre, « Mon message et mon message et mon royaume est pour les deux. Et je veux me servir des deux. » Pierre brise cette barrière-là culturelle entre les hommes et les femmes. Il va briser aussi la barrière religieuse. Parce qu'alors que Pierre prêche ce message, il va dire que lorsque Dieu va déverser son esprit, ce sera sur, pas juste l'élite religieuse, mais ce sera sur tout être humain. Il brise cette barrière où à l'époque, les pharisiens, les spécialistes de la loi étaient les hommes de Dieu. C'était à eux que Dieu parlait. C'est eux qui avaient la révélation de Dieu et eux étaient juste les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Mais à travers Pierre, Dieu est en train de prêcher le message que lorsque son esprit va être déversé, c'est pas juste sur une élite religieuse, c'est pas juste sur des hommes religieux, mais c'est sur tout être humain. Ce que ça veut dire pour toi ce matin, ça veut dire que si tu es rentré ici ce matin et que tu ne crois pas, tu ne marches pas avec Dieu, tu n'es pas rempli de l'esprit, tu peux sortir ce matin rempli de l'esprit. Parce que Dieu déverse encore son esprit sur tout être humain. Pas juste les pasteurs, pas juste les leaders, mais sur tout le monde. L'Esprit de Dieu est là pour tout le monde. Et Pierre brise cette barrière religieuse entre l'élite religieuse et le peuple de l'autre côté. Il n'y a plus de ça dans l'œuvre de Dieu à partir de ce moment-là, où l'Esprit de Dieu est là pour tout le monde maintenant. Tout le monde a accès à l'Esprit de Dieu. Et Pierre continue de briser les barrières, non seulement culturelles, religieuses, mais il va briser les barrières aussi sociales. À l'époque, c'était coutume d'avoir des gens, des serviteurs qui étaient à la maison, des esclaves qu'on avait à la maison. Et Pierre, rempli de l'Esprit, va dire au verset 18, il va dire, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je vais déverser mon Esprit. Et eux aussi prophétiseront. » Non seulement il n'y a plus de hiérarchie dans la foi et dans l'Église, l'élite religieuse, c'est eux qui ont la révélation. Non, tout le monde là maintenant, mais il va même dire ceci, c'est pas juste les mieux nantis qui ont accès au message de l'Évangile, à l'Esprit de Dieu, tout le monde y a accès. Il n'y a plus d'esclaves ou de boss, là, si vous voulez, dans l'œuvre de Dieu, tout le monde a accès à l'œuvre de Dieu. Et il y a une dernière barrière que Pierre va briser dans ce message-là, et c'est à celle-ci qu'on va s'attarder aujourd'hui. Et c'est la barrière générationnelle. Pierre, rempli de l'Esprit, va dire maintenant, les jeunes, lorsque l'Esprit de Dieu va venir sur eux, ils vont avoir des visions, mais les gens plus âgés aussi, lorsque l'Esprit de Dieu va venir sur eux, ils vont avoir des rêves. Pierre est en train de décrire la vérité du royaume jusqu'en 2024, qu'il n'y a pas de barrière générationnelle dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu ne se sert pas uniquement de ceux qui sont plus expérimentés, mais Dieu ne se sert pas non plus juste des jeunes maintenant qui sont remplis d'énergie et de foi pour le futur. Pierre va décrire que Dieu veut se servir des deux ensemble pour bâtir son œuvre. Et j'aimerais nous rappeler ici à Nouvelle Vie que notre vision est de bâtir une église multigénérationnelle. Que les jeunes et moins jeunes sont ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu. Je vais toujours me souvenir, il y a plusieurs années de ça, alors que j'étais moi-même pasteur ici, à Nouvelle-Ville-Longueuil, des jeunes adultes, dans une rencontre avec toute l'équipe. Pasteur Claude a apporté un message où il nous parlait des trésors anciens et des trésors nouveaux. Dans Matthieu chapitre 13, vous allez trouver le texte qui parle de ça. Mais depuis toujours, la vision de Nouvelle Vie a été d'être une église multigénérationnelle. Il va y avoir une nouvelle génération qui va émerger, mais il y a une génération qui est là, qui a beaucoup d'expérience et qui ont bâti des fondations sur lesquelles les jeunes maintenant bâtissent. Et ce n'est pas une génération ou l'autre que Dieu va servir. C'est les deux ensemble. Et il y a plein de gens qui peuvent rentrer ici chaque semaine. Des gens rentrent à Nouvelle Vie, regardent à tout ce qui prend place ici, regardent les lumières, regardent l'écran, regarde les jeunes qui sont en avant. Parfois, il y en a même qui ont des casquettes sur le stage, ça arrive. Elle dit ça, et ça, c'est une église de jeunes. Nous, à Nouvelle-Vie, à Québec, le nombre de fois qu'on entend ces commentaires-là, des gens qui disent qu'ils sont là pour les premières fois, qui visitent, il y en a des dizaines à chaque dimanche qui visitent, « Hey, wow, c'est une église pour les jeunes, c'est une église de jeunes. » Ils voient l'âge du pasteur en avant, qui plein de fois, on m'a pris pour le pasteur jeunesse à Québec. Ils me demandent, « Toi, est-ce que tu es le pasteur jeunesse? » Non, non, madame, je l'ai déjà été, mais je le suis aussi à Québec, mais pas juste ça. C'est pas le pasteur jeunesse. Ils voient les lumières, ils voient tout ça, ils se demandent, « Est-ce que c'est une église pour les jeunes? » J'aimerais nous rappeler à chacun d'entre nous sur tous les sites Nouvelle Vie, que notre vision n'est pas d'être une église seulement pour les jeunes. Notre vision, c'est d'être une église multigénérationnelle. C'est ça la vision, c'est ça le cœur de cette église-là. C'est l'église dans laquelle moi j'ai grandi en me faisant prêcher ces messages-là de ces multigénérationnels. Notre vision, c'est d'être une église remplie d'esprit, qui prêche la Bible, qui aime les gens, puis qui va être pertinente pour aujourd'hui, mais qui est là pour tous les âges. Pas une génération plus que l'autre, mais d'être pour toutes les générations. Notre vision, c'est de rejoindre non seulement les gens de tous les backgrounds, de toutes les nationalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la manière que tu rentres ici, à chaque semaine, tu es le bienvenu. Le message est pour toi, cette église est pour toi, mais cette église est aussi pour toi, peu importe l'âge avec laquelle tu rentres ici à chaque semaine. C'est la vision de l'Église Nouvelle Vie, mais c'est aussi la vision que Pierre lance à l'Église avec un grand E dans Actes chapitre 2, que l'œuvre de Dieu est pour toutes les générations. Ce que Pierre décrit, c'est que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu pas juste d'une génération, mais c'est le Dieu de toutes les générations, où Dieu veut rencontrer et se servir de toutes les générations. La maison de Dieu devrait être la maison où les petits-enfants sont avec les enfants et les parents avec les grands-parents et les arrière-grands-parents. La maison de Dieu, la vision de l'Église, selon Acte 2, c'est une maison multigénérationnelle où chacun trouve l'Esprit de Dieu dans cette maison-là. Et Pierre va enseigner que Dieu veut sauver les gens de toute génération. J'étais tellement béni d'entendre le témoignage sur un des sites Nouvelle Vie. Ils ont baptisé, à Drummondville, ils ont baptisé une madame qui avait plus de 80 ans, qui vient juste d'accepter le Seigneur. La semaine dernière, ils l'ont baptisé. À Drummondville, c'est extraordinaire. Une madame qui est une vraie rêveuse à 80 et quelques années, mais qui accepte le Seigneur. Et quelques semaines, à Québec, on baptise des ados qui sont là, qui acceptent le Seigneur. Mais c'est ça, l'œuvre de Dieu. C'est une madame de 80, quelques années, qui accepte le Seigneur, qui se fait baptiser, mais c'est aussi des ados qui découvrent Jésus, qui se font baptiser. C'est le message de Pierre. Les jeunes et les moins jeunes ensemble. Et je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Tu n'es pas trop jeune pour répondre à l'appel de Dieu. Et tu n'es pas trop avancé en âge pour répondre à l'appel de Dieu ce matin. Personne n'est soit trop jeune ou trop avancé en âge pour que Dieu se serve de lui. Tout le monde est appelé. C'est jamais juste une question d'âge. Parce que j'ai rencontré des gens pour qui, à 30 ans, ils se considèrent trop jeunes pour servir Dieu. Et dans certains cercles, avec vraiment beaucoup d'amour, mais dans certains cercles, j'ai vu des jeunes qui acceptent le Seigneur, qui ont un appel sur leur vie dans leur jeune vingtaine, mais on leur dit, tu dois faire un stage, par-dessus un stage, par-dessus un stage. Et c'est des jeunes qui veulent servir Jésus, qui ont des dons, qui sont appelés, mais qui arrivent à 25, 30 ans, 32, 33, puis on leur dit, t'es encore un peu trop jeune, t'as pas assez d'expérience pour servir Dieu. J'aimerais dire, c'est pas juste une question d'âge. Lorsque tu atteins 35 ans, t'es prêt à servir Dieu. Il y a des jeunes dans la jeune vingtaine qui sont appelés de Dieu et qui sont appelés à avoir des rôles importants dans l'œuvre de Dieu parce que Dieu les appelle. C'est pas juste une question d'âge. Lorsque moi je regarde dans notre église, juste dans notre église ici, quand je regarde à toute l'équipe des jeunes leaders, des pasteurs, Thomas Dieng, est-ce que Thomas est capable de prêcher à 30 ans? Combien sont d'accord avec moi que Dieu peut se servir des jeunes dans son royaume? Toute l'équipe qui est là. C'est pas juste une question d'âge, mais j'ai aussi rencontré des gens qui, dans la jeune cinquantaine, se considèrent trop âgés, comme si la jeune génération qui arrive maintenant, ils disent « Non, moi, je sais plus comment ça marche, je suis plus comme avant, ça a changé, les jeunes sont pas pareils, je sais pas ce que je peux apporter, je sais pas quel rôle je peux jouer. » C'est pas juste une question d'âge. Il y en a qui ont 30 ans et qui se trouvent trop jeunes, il y en a qui ont dans la jeune cinquantaine qui se trouvent trop âgés. J'aimerais dire, c'est pas une question d'âge. T'es jamais trop jeune. Et t'es jamais trop âgé pour servir Dieu et pour répondre à son appel. Et nous avons besoin de bâtir une église qui va être multigénérationnelle. Notre vision, c'est pas de bâtir une église juste avec des jeunes. Parce qu'une église remplie de juste la jeune génération seulement, qui est remplie d'énergie, la passion des jeunes, la créativité des jeunes, les idées des jeunes. Si une église qui est remplie uniquement de visionnaires, des jeunes qui sont là avec l'énergie, la créativité, les idées, l'église va naturellement manquer de sagesse. L'Église va naturellement manquer d'expérience. L'Église va naturellement manquer de stabilité. Alors, on ne peut pas juste bâtir une Église en disant la prochaine génération, on va tout faire pour que la jeune génération, toutes leurs idées, c'est juste ça maintenant, c'est la jeune génération. Ce n'est pas ça que Pierre prêche dans Acte 2. Ça ne peut pas juste être les jeunes, mais de l'autre côté, ça ne peut pas juste être des rêveurs non plus qui dirigent nos futures Églises. Parce que ce qui est arrivé partout, j'ai pas beaucoup d'expérience dans l'œuvre de Dieu, mais assez pour avoir vu des églises où toute l'équipe qui était là depuis toujours, et là ne fait pas de place, c'est une équipe qui grandit, qui avance en âge, et dans l'équipe, il n'y a aucune place pour des jeunes visionnaires. Et c'est une église qui est là, puis ce qui arrive souvent, ce qui arrive à l'extérieur, que j'ai vu partout, c'est qu'il y a des gens qui sont là, des rêveurs, qui conservent leur place, qui protègent les méthodes du passé, parce qu'on dit, hey, c'était pas comme ça qu'on le faisait avant, puis on fera pas ça comme ça, puis c'est comme ça dans 82, puis ça va être comme ça en 2026 encore, puis il y a des rêveurs qui protègent les vieilles méthodes, qui protègent des choses qui sont là. Mais si l'église est remplie uniquement de rêveurs, cette église est en danger de ne plus être pertinente pour aujourd'hui. Alors, ce n'est pas de dévaloriser les jeunes ou les plus âgés, mais c'est de valoriser la présence des jeunes et de valoriser la présence des rêveurs et ces visionnaires et rêveurs ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Et moi, je peux vous dire, pas beaucoup d'expérience, mais je peux vous dire à quel point nous sommes bénis d'être dans une église qui a catché cette vision-là, qui a compris cette vision-là, que c'est pas juste une équipe de rêveurs, mais c'est pas juste, on donne toute la place aux visionnaires. C'est un équilibre entre visionnaires et rêveurs, puis ensemble, on bâtit l'œuvre de Dieu. Vous devriez applaudir de reconnaissance d'être dans une église qui se renouvelle de génération en génération. Nous avons besoin des deux. Visionnaire et rêveur. On a besoin de l'énergie des jeunes, des idées des jeunes, la créativité, la passion des jeunes. Mais j'aimerais aussi nous dire, nous avons besoin, et je vais parler comme porte-parole des visionnaires ce matin, nous avons besoin de la sagesse des rêveurs. Nous avons besoin de valoriser l'expérience des rêveurs. Nous avons besoin de valoriser de l'encouragement et le zèle de tous ceux qui étaient là avant nous, qui ont bâti avant nous, que tous les visionnaires qui commencent à servir réalisent qu'ils bâtissent sur une fondation qu'ils n'ont pas posée, mais que des rêveurs ont posée. Et nous avons besoin de valoriser cette vision intergénérationnelle de bâtir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin des deux. J'ai eu le privilège quelques fois d'aller dans des églises aux États-Unis, puis j'ai eu le privilège d'apporter la parole dans quelques églises aux États-Unis, mais une église qui m'a énormément marqué, en Alabama, où je me suis retrouvé à prêcher dans une église qui avait plus de 200 ans d'histoire. Et pour moi, c'était une première. Il y a quelqu'un qui m'a dit au Québec, une église qui a 100 ans d'histoire, au meilleur de mes connaissances, il y en a une au Québec qui a plus de 100 ans d'histoire, qui est encore, les portes sont encore ouvertes, la même église, tout ça. Mais aux États-Unis, je me suis retrouvé dans un endroit où cette église-là avait plus de 200 ans d'histoire. Pouvez-vous imaginer à quel point de génération en génération, il y a dû avoir des visionnaires et des rêveurs pendant plus de 200 ans? Le pasteur me faisait marcher autour de leur bâtiment et il m'expliquait que ce bâtiment-là, puis il n'était pas neuf, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont à l'intérieur de ce bâtiment-là, il m'expliquait que c'était le quatrième projet de construction de cette église. Et ils ont fait un projet de construction qui remonte à 200 quelques années qu'ils sont là. Ils ont été là vraiment plusieurs décennies. Ils ont vendu un autre projet pendant plusieurs décennies. Ils ont vendu, reconstruit ailleurs, modernisé encore là, plusieurs décennies. Là, c'est leur quatrième projet de bâtiment. Et moi, il me dit ça. Puis moi, à Québec, on rêve de juste en avoir un. Moi, j'en veux juste un. Nous, on en veut un. Même pas, on en veut un petit. Juste un. On voudrait juste avoir une place. Mais lui m'expliquait que de génération en génération, il y a eu un flambeau qui s'est passé de génération en génération, puis de visionnaires et de rêveurs. Mais ça faisait en sorte que l'église, à plus de 200 ans, elle est encore ouverte, remplie. Cette église-là était remplie. Je me suis retrouvé dans cette église où Martin Luther King lui-même a prêché là. De génération en génération, je me retrouvais là, plein de jeunes peuvent s'expérimenter, juste quelque chose de beau. Ça sentait le royaume de Dieu dans cette église-là, parce que c'était les jeunes et moins jeunes de génération en génération. Mais savez-vous dans quoi ils ont excellé pour être là 200 ans plus tard? Dans cette vision multigénérationnelle, d'avoir des visionnaires qui prennent leur place et des rêveurs qui sont là, qui ont leur place, mais qui travaillent ensemble pour que de génération en génération, l'œuvre de Dieu continue. Et combien sont d'accord avec moi de dire, Seigneur, viens faire ça ici à Nouvelle-Vie, viens faire ça ici au Québec, de génération en génération, des visionnaires et des rêveurs, pour qu'on se retrouve dans 100 ans, dans 150 ans, qu'on parle encore de ce que Dieu a fait à Nouvelle-Vie. De génération en génération, parce que quand Dieu, à travers ce que Pierre a prêché dans Acte 2, quand Dieu veut bâtir son église, c'est une église de génération en génération, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de génération. Quand vous allez voir dans la Bible, par exemple, l'expression qu'on connaît, si ça fait plus que 30 minutes que vous êtes à l'église, vous avez probablement déjà entendu l'expression « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais il y a deux niveaux avec lesquels on peut lire ça. Parce que est-ce que Dieu était le Dieu personnel d'Abraham? Absolument. Est-ce que Dieu était le Dieu personnel d'Isaac? Oui. Est-ce que Dieu était un Dieu personnel comme son Dieu personnel à Jacob? Oui. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça, juste que le Dieu de trois personnes. C'était l'image, puis c'était l'annonce que Dieu allait être le Dieu de génération en génération. Quand Dieu était avec Abraham, Dieu voyait déjà Isaac, voyait déjà Jacob et voyait déjà toutes les autres générations qui allaient suivre. Parce que Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui voit les générations. Alors quand que Dieu voit notre génération aujourd'hui, il voit déjà la prochaine qui s'en vient. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de génération. Et ce matin, j'aimerais m'adresser aux deux groupes de personnes, si vous me le permettez ce matin. Aux visionnaires les plus jeunes et aux rêveurs les plus avancés, en âge. Dans Acte 2, commençant par les visionnaires, Acte 2, 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Alors que Pierre prêche ce message, Pierre est en train de déclarer que la vision de l'Église, selon le cœur de Dieu, c'est que les fils, les filles, les jeunes, les enfants, les ados, les jeunes adultes ne sont pas seulement des observateurs du royaume jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Que les jeunes dans notre Église ne sont pas supposés être juste accessoires ou à quelque part juste un fardeau dans le sens que les parents viennent ici, alors il faut s'occuper de leurs enfants de l'autre côté. Ce que Pierre est en train de prêcher, c'est cette vision que les jeunes ne sont pas juste observateurs du royaume, ils ne sont pas juste là parce qu'il faut s'en occuper, parce que le vrai ministère est avec leurs parents. Ce que Pierre est en train de décrire, c'est que les jeunes doivent avoir leur place dans l'œuvre de Dieu. C'est qu'ils ont un rôle à jouer comme tout le monde dans l'Église de Jésus. Ils ne sont pas juste là pour observer, ils ne sont pas juste là pour regarder de loin. Ce que Pierre est en train de décrire, c'est que Dieu veut déverser son esprit en eux et Dieu veut se révéler à eux par des visions. Ils ont un rôle à jouer. Et Nouvelle Vie, je prie que Dieu réveille nos âmes avec cette réalité, que nous avons besoin de faire de la place aux visionnaires dans notre Église pour que les jeunes prennent leur place et jouent leur rôle dans notre Église. Pierre va dire, les jeunes vont avoir des visions. C'est la réalité que Dieu va révéler des choses. Dieu va parler. Le futur du royaume de Dieu au Québec va passer aussi par des jeunes qui vont avoir des visions. Nous marchons dans une église où Dieu a révélé des visions. Il y a maintenant plusieurs décennies, Dieu a révélé à une génération de visionnaires des choses qu'il y avait pour l'avenir, des choses, ce que Dieu voulait faire au Québec. Mais j'aimerais vous dire que c'est comme ça que l'œuvre de Dieu va aussi continuer. Que Dieu va continuer de se révéler à des jeunes. Et il y a des jeunes au son de ma voix, ici dans ce lieu et en ligne aussi. Que Dieu veut te parler à toi ce matin, que c'est ton moment ce matin de dire « Oui, Seigneur, je veux bâtir ton œuvre. Oui, Seigneur, je suis disponible pour te servir. Oui, Seigneur, je suis là. Tu m'appelles, me voici, Seigneur. Pas juste quand j'aurai 35, pas juste quand j'aurai 45, pas juste quand je serai en pré-retraite ou à la retraite, mais je suis disponible maintenant et j'aurais aimé que des jeunes disent « Oui, ça, c'est moi ce matin. » C'est ma prière pour toi. Nous avons besoin de faire de la place aux jeunes. Nous avons besoin de valoriser la place des jeunes dans le royaume. Et nous avons besoin, et je m'adresse aux rêveurs quelques instants, nous avons besoin d'être ceux, puis je me parle comme un grand frère à ceux qui sont plus jeunes, les ados, les jeunes, jeunes adultes. À 34 ans, je me considère parfois comme un rêveur en devenir. Mais c'est notre appel de propulser les visionnaires dans leur appel. C'est notre appel de voir des choses en eux que eux ne voient peut-être même pas en eux-mêmes. À 16, 17, 18 ans, 22, 23, remplis d'insécurité, de qu'est-ce que je dois faire, est-ce que Dieu m'appelle vraiment? C'est le rôle des rêveurs de valoriser leur place, mais pas juste ça, de dire voici ce que je vois. Je vois la main de Dieu sur toi, je vois l'appel de Dieu sur toi, puis Dieu t'appelle à le servir. C'est notre rôle de faire ça. C'est notre rôle. C'est le rôle des rêveurs de propulser des jeunes dans l'appel de Dieu pour eux. C'est notre appel, parce que la parole de Dieu, elle est remplie d'exemples où Dieu a appelé pas juste des adultes matures, où Dieu a appelé des enfants, où Dieu a appelé des ados à servir. Plusieurs des grands personnages bibliques que nous connaissons, leur histoire par cœur aujourd'hui, l'appel de Dieu sur leur vie est venu dans une saison où c'était des ados. Prenez l'exemple, par exemple, de Joseph dans la Bible, le gouverneur d'Égypte, le numéro 2 dans Genèse 37 à 50, l'histoire de Joseph. Quelle histoire extraordinaire! On connaît Joseph, il était gouverneur d'Égypte, numéro 2. Il y avait juste le pharaon qui était plus puissant que lui à l'époque. Le grand Joseph utilisé puissamment par Dieu. Savez-vous à quel âge? À quel âge Joseph a été appelé? C'est un ado. C'est un ado. Il serait dans notre réunion d'ados ici le vendredi soir. Ça a arrêté dans un moment comme ça que Dieu l'a appelé. Même pas ici un dimanche, il a arrêté aux ados. C'est un ado, Joseph. Quand Dieu lui a révélé les visions pour sa vie, Joseph était juste un ado. Le grand roi David, le plus grand roi de l'histoire du peuple d'Israël, le plus grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu. David était un ado. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel, le oindre d'huile, pour lui dire, ça va être toi le prochain roi. David était tout seul dans le champ, tellement jeune. Il avait tellement pas le physique de l'emploi que son père a même pas cru bon passer l'entrevue pour le prochain roi. Il a dit, reste dans le champ, ça vaut même pas la peine que tu sois là. Et le petit David qui est là à servir, à les brebis, servir la maison de son père, Dieu dit, c'est lui là-bas. Il envoie le prophète Samuel jusqu'à lui. Puis il dit, c'est lui. Déverse l'huile d'onction sur lui parce que ça va être lui le prochain roi. Mais à ce moment-là, David, c'est un ado. Et je veux dire à tous les ados qui écoutent ce message et qui vont écouter ce message, quand tu as l'impression que personne te voit, quand tu as l'impression que tout le monde t'a oublié, quand tu as l'impression que personne voit ce que Dieu a déposé en toi, laisse Dieu te trouver. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'entrevue puis de courir après l'attention. Dieu va envoyer un Samuel pour aller dire c'est toi que Dieu appelle. Dieu va te trouver là où tu es. Mais c'est un ado. C'est un ado. Le prophète Samuel lui-même, si vous reculez dans l'histoire, que Dieu a utilisé avec David, le prophète Samuel, son propre appel, c'est un jeune. Si vous regardez la Marie, la mère Thérèse de Jésus qui était là, qui a porté Jésus, c'était une ado. Plusieurs historiens, théologiens vont dire qu'elle avait probablement entre 14 et 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. C'est une ado. Si vous regardez le prophète Jérémie, un des grands prophètes dans l'Ancien Testament, un homme de Dieu extraordinaire, lorsque Dieu commençait à révéler des plans pour sa vie, c'est un jeune. C'est un jeune qui ne savait pas ce qui se passait. Si vous regardez juste son histoire dans Jérémie chapitre 1, juste quelques versets, juste pour nous faire comprendre à quel point Dieu appelle des jeunes encore aujourd'hui. Que le Dieu de la Bible n'appelle pas juste des adultes matures, il appelle encore des visionnaires jeunes en âge. Dans Jérémie 1, verset 4, la parole de l'Éternel m'a été adressée, c'est Jérémie qui parle. Il va dire, là c'est Dieu qui dit, voici ce que Dieu m'a dit. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Que personne ne me dise que Dieu n'appelle pas de jeune. Je t'avais désigné prophète des nations. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est appelé de prophète des nations? Non. Mais ça veut dire, par exemple, que Dieu connaît avant même que tu naisses, Dieu avait des plans pour toi, par exemple. Alors, ce n'est pas une question d'âge ici. Dieu est en train de lui dire, ce n'est pas lorsque tu as eu 20 ans, voici maintenant les plans pour ta vie. Non, Dieu est en train de lui dire à un jeune âge, ado, avant même que tu viennes au monde, Jérémie, je te connaissais et j'avais déjà des plans pour toi. Mais regardez la réponse de Jérémie. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. » Ah, je suis trop jeune. Après avoir servi pendant 8 ans dans les ministères jeunesse, je peux vous dire que ça, je l'ai entendu souvent. Ah, je suis trop jeune. Non, je ne peux pas, je suis trop jeune. Je ne suis pas capable, je n'ai pas l'expérience, je suis trop jeune. Regardez la réponse de Dieu à l'excuse de « je suis trop jeune ». Verset 7, voici la réponse de l'Éternel. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune. C'est une parole pour un jeune ce matin. Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te redonnerai. C'est pas comme si Dieu donnait le choix à Jérémie en ce moment. Tu dis que tu es trop jeune, l'âge n'est pas une excuse dans mon royaume. C'est comme si Dieu était en train de dire, on le sait que tu es jeune, mais c'est pas grave. Je t'ai appelé et tu vas aller là où je vais t'appeler à aller et tu vas dire ce que je t'appelle à dire. N'aie pas peur, 2, verset 8, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'expérience. Si la main de Dieu touche ta vie, Seigneur dit, me voici, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas comment on va faire, mais si tu m'appelles, je dis oui, Seigneur. Peu importe mon âge, tu n'es pas trop jeune pour servir Dieu. Tu n'es pas trop inexpérimenté pour répondre à son appel. Tu ne pourras jamais acquérir l'expérience si tu ne dis pas oui en premier. Alors tu vas dire oui, Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas quand tout ça va arriver, je ne sais pas de quelle manière tu vas te servir de moi. Mais ma réponse ce matin, aujourd'hui, Seigneur, c'est oui. Me voici, Seigneur. Utilise-moi. On veut bâtir une maison pour toutes les générations. Des visionnaires et des rêveurs. Et dans le Nouveau Testament, Paul va avoir cette parole pour tous les visionnaires ce matin, tous les jeunes dans ce lieu, tous ceux qui sont en ligne. Alors que Paul va s'adresser au jeune Timothée, ce jeune pasteur sans expérience, ce jeune pasteur qui ne sait pas, il a l'air souvent là, insécure face à son âge. Il dit, mais j'ai pas l'expérience, j'ai pas ce qu'il faut. Regardez Paul, le rêveur, qui parle à Timothée, le visionnaire. Et regardez ce qu'il va lui dire. Que personne... 1 Timothée 4, ne te méprise pour ton jeune âge. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge. Mais regarde ça la suite. Mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Paul est en train de dire à Timothée, « Timothée, comme Dieu a dit à Jérémie dans l'Ancien Testament, l'âge n'est pas une excuse dans l'œuvre de Dieu. Que personne vienne mépriser ta vie, ton appel à cause de ton âge. Mais toi, de l'autre côté, montre l'exemple, sois un modèle malgré ton jeune âge. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. » Puis Paul est en train de faire à ce moment-là la distinction entre être avancé en âge et être mature. Parce qu'il y a une différence entre être avancé en âge et être mature spirituellement. Et Paul va dire à Timothée, peut-être que tu es jeune en âge, mais tu as un appel d'être mature spirituellement. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu, oui, tu es jeune, mais sois un modèle dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Sois un modèle là-dedans. Parce qu'il y a plein de gens, je ne veux pas marcher sur les orteils de personne ce matin, mais il y a des gens qui sont avancés en âge, mais qui ne sont pas matures spirituellement. Mais je veux dire à tous les jeunes qui sont là, c'est possible d'être jeune en âge et d'être mature spirituellement avec Jésus. Et l'âge n'est jamais un facteur pour dire « Non, ça, je suis trop jeune. » Combien de fois j'ai entendu ça? J'ai entendu toutes les versions imaginables de « J'étais trop jeune. » Depuis 3 ans maintenant, dans le projet d'implantation d'Église Nouvelle Vie à Québec, va avoir 3 ans en septembre. Depuis 3 ans, j'ai reçu toutes les versions imaginables de « Est-ce que tu es sûr que tu as la maturité nécessaire pour faire ça? » Est-ce que tu es sûr que tu as l'expérience nécessaire pour faire ça? Tu as juste pris un cours d'implantation d'église. Peut-être que tu devrais prendre un autre cours ou 3 ou 5, peut-être, sur l'implantation d'église. Quand tu arrives là, ta femme, tout ça, vous avez de jeunes trentaines. Est-ce que vous êtes sûr que, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop jeune? Est-ce que ça ne voudrait pas peut-être attendre un petit peu plus tard, avoir plus de bagages, plus d'expérience? J'ai reçu toutes les versions imaginables de « t'es trop jeune pour faire ça ». Puis alors que les gens qui arrivent à la Nouvelle Vie Québec et qui ne me connaissent pas encore, ils arrivent, puis vous, mais est-ce que vous êtes le pasteur des jeunes ici, là? Est-ce que c'est de la... C'est... Toute cette version-là, je l'ai entendue, mais je veux dire à tous les enfants, tous les ados, tous les jeunes au son de ma voix, si Dieu t'appelle, personne ne peut te canceller. Personne. Et dans cette cancel culture, dans cette culture de cancellation dans laquelle on est, dans le royaume de Dieu, si Dieu t'appelle, il n'y a personne qui peut canceller ton appel à cause de ton âge. Si tu dis, Seigneur, oui, tu marches avec moi, puis tu m'appelles à être mature spirituellement, alors Seigneur, peu importe mon âge, donne-moi sagesse au-delà de mes années, donne-moi maturité au-delà de mes années, que ton esprit me dirige, mais Seigneur, malgré mon âge, je veux dire oui à ton appel. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je crois qu'il y a dans notre Église, non seulement à Longueuil ici, mais à Québec et sur tous les sites et les futurs sites, il y a des jeunes au Québec qui sont appelés à servir, qui sont appelés à prêcher, qui sont appelés à prophétiser, qui sont appelés à diriger, qui sont appelés à faire une différence. L'œuvre de Dieu dans les prochaines décennies va se bâtir avec des visionnaires qui vont dire « Oui, Seigneur, mais ça commence maintenant, ça commence ce matin pour toi, ça commence aussi en ligne pour toi. » Il y a des jeunes qui sont appelés. Et c'est notre appel à tous ceux qui sont des rêveurs dans ce lieu d'élever cette génération-là, de faire de la place pour qu'ils puissent grandir dans leur appel, d'aider les visionnaires à rentrer dans leur appel. Parce que Dieu appelle encore des jeunes aujourd'hui. C'est fascinant pour moi qui ai grandi dans une famille, j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais sauf ma famille immédiate, tout mon entourage, toute notre famille élargie, il n'y a personne qui était croyant, encore aujourd'hui, ils ne sont pas encore croyants. Un jour, on va les baptiser, mais... Alors que j'ai grandi dans une famille où tout ce qui est autour de moi, non seulement ce n'est pas des gens qui marchaient avec Dieu, mais encore moins des modèles de pasteurs, des modèles dans le ministère. Il n'y a personne dans mon entourage qui était pasteur ou dans le ministère. Je n'ai pas grandi avec ça autour de moi. Mais à 11 ans, j'avais 11 ans quand Dieu a déposé dans mon cœur de jeune pré-ado qu'un jour j'allais être pasteur. Quand une de mes tantes, c'était une réunion de famille, souper de famille, une de mes tantes qui ne connaît pas le Seigneur, puis on parle, tout ça, puis ma tante qui me dit, « Toi, mon petit JB, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Pompier? Policier? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, ma tante, je vais être pasteur. » Il dit, « OK, est-ce qui est correct? » Est-ce correct? Qu'est-ce qui... Pasteur, que personne ne me dise que Dieu ne parle pas aux jeunes. Parce que je grandis dans un environnement où personne n'était pasteur autour de moi. Mais alors que l'Esprit de Dieu est en moi à 11 ans, Dieu commençait à déposer dans mon cœur cette vision que j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire d'être pasteur. Mais c'est comme si, dans le fond de mon cœur, Dieu avait déjà déposé que j'allais un jour servir Dieu comme pasteur. Et regardez aujourd'hui ce que Dieu a fait. Incroyable. C'est incroyable pour moi. C'est incroyable. Dieu parle et Dieu se révèle à nos jeunes plus qu'on le pense. Je me permets de dire ça ce matin. Nouvelle Vie Junior de l'autre côté du mur, ce n'est pas une garderie. Ce qui se passe à Nouvelle Vie Junior, au moment même où on est ici en ce moment, est aussi important que ce qui prend place maintenant. Nous n'avons aucune idée à quel point Dieu est en train de se révéler à des petits cœurs de l'autre côté. À quel point l'Esprit de Dieu, à travers le ministère de pasteurs, de leaders, de moniteurs qui sont là, que Dieu est en train de se servir d'eux pour semer des paroles dans le cœur de ces enfants-là qui vont pousser pendant leur enfance, leur adolescence et qui vont porter fruit le reste de leur vie. Ne minimisons pas ce que Dieu peut faire à travers les enfants, les ados et les jeunes adultes dans notre Église. Je le dirais comme ça, il n'y a pas de Saint-Esprit junior. On a Nouvelle Vie Junior, mais il y a juste le Saint-Esprit. Alors, il faut prier pour nos enfants. Il faut prier pour nos leaders d'enfants, les leaders des ados ici à Nouvelle Vie. Il faut prier pour les leaders des jeunes adultes parce que lorsqu'ils se rassemblent, on prie que Dieu se révèle à eux. Oh Seigneur, viens appeler des enfants, appelle des jeunes, reconstruis des jeunes, appelle-les, guéris-les, restaure-les parce que Dieu se révèle à eux aussi. Amen. Amen. Lorsque j'étais en début d'année, à la conférence Reset, notre conférence, toutes les multisites ensemble, d'ados, plus de 400 ados qui sont là. Puis à la fin d'un message, d'une prédication, des dizaines d'ados qui répondent à l'appel de Dieu, des ados qui commencent à prier les uns pour les autres, qui commencent à déclarer la parole de Dieu les uns sur les autres, qui répondent ensemble à l'appel de Dieu. J'aimerais nous dire, il y a des rêveurs qui doivent prendre des notes, des visionnaires. Et je ne parle pas juste des visionnaires de 34 ans, comme moi, par exemple, qui on a implanté une église. C'est pas ça. C'est pas du tout ça le message. C'est des ados de 14 ans qui prient les uns pour les autres, qui sont là les uns pour les autres, qui répondent à l'appel de Dieu, qui veulent servir, qui veulent faire une différence pour Jésus. Il y a des rêveurs qui peut-être devraient prendre exemple sur des visionnaires de 14, 15 ans dans notre église qui disent, moi, je veux te servir, Seigneur. Amen. 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 Applaudissez 5 secondes pendant que je décide ce que je coupe de mon message. Juste hier matin, ici dans ce lieu, il y avait des dizaines de jeunes adultes qui ont répondu à l'appel. Pasteur Mark, qui était ici pour parler de l'appel au ministère. Il y avait plus de 120 jeunes adultes ici dans une salle. Et plein de jeunes se sont avancés pour dire, « Moi, je veux te servir, Seigneur. Nous avons besoin de prier pour eux. Nous avons besoin de leur faire de la place. Nous avons besoin de valoriser leur ministère, de prendre votre place. Vous avez un rôle à jouer. Vous êtes important. On veut vous équiper. On veut vous entourer. On veut prier pour vous. » C'est la vision de l'Église de Pierre dans chapitre 2 du livre des Actes. Mais l'Église n'est pas juste bâtie à travers la place des visionnaires. Ça prend aussi des rêveurs qui vont prendre leur place dans l'œuvre de Dieu. Et je veux m'adresser à vous en concluant ce message-là. Je crois que comme c'est vrai pour des jeunes qui peuvent se disqualifier du ministère ou de l'appel de Dieu ou de ce que Dieu peut les appeler à faire, comme des jeunes peuvent se disqualifier à cause de leur âge, je crois que c'est aussi vrai que des personnes avancées en âge se disqualifient à cause de leur âge. Et dans les deux cas, it's wrong. Dans les deux cas, c'est pas bon. C'est pas juste parce que tu es trop jeune, c'est pas juste excellent, tu n'es pas trop âgé non plus pour servir Dieu. Puis au son de ma voix, je viens plaider ce matin. Je viens plaider pour des gens qui disent, moi, je suis trop avancé en âge. Je suis trop âgé maintenant. Je viens plaider pour que l'Esprit de Dieu ce matin percute votre cœur. Et dire, vous avez encore un rôle à jouer. Vous avez encore une différence à faire dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de votre contribution. Nous avons besoin de votre ministère. Nous avons besoin de ce que vous pouvez amener. Acte 2, c'est « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, c'est les visionnaires. Mais vos vieillards, les personnes avancées en âge, auront des rêves. » Je veux le dire ce matin, si tu respires, si tu es ici, si tu es en ligne, Dieu n'a pas fini avec vous. Vous avez une place à jouer. Il n'est pas trop tard. autant dans la parole de Dieu, on a des exemples de jeunes, des enfants à qui Dieu se révèle, des ados à qui Dieu se révèle. Nous avons tellement d'exemples dans la Bible de gens qu'on considérait aujourd'hui comme avancés en âge qui répondent encore à l'appel de Dieu. Quand vous regardez l'histoire, on parlait tantôt du Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Lorsque Abraham rentre dans son appel, savez-vous quel âge il a? 75 ans. Prêt à tout laisser pour servir l'Éternel. À 75. Lorsque vous regardez un des pionniers de l'Ancien Testament, Moïse, à quel âge il va rentrer dans son appel, Moïse? 80. Et c'est pas tout. Son bras droit que Dieu appelle avec lui, Aaron, savez-vous quel âge avait Aaron? 83 ans. Deux jeunes hommes prêts à servir l'Éternel. 80, 83. Prêts à aller délivrer le peuple de Dieu des mains de Pharaon. Un de mes préférés dans toute l'histoire biblique, dans toute la narrative biblique, c'est Caleb. On a une fenêtre dans l'histoire de Caleb est exceptionnelle parce que Caleb a fait partie lorsque Moïse, le jeune homme de Dieu de 80, Dieu se sert de lui pour libérer le peuple d'Égypte. Moïse va envoyer des espions sur la terre promise pour leur dire, allez voir, alors qu'ils sortent de l'Égypte, s'en dirigent vers la terre promise. Moïse va envoyer des espions pour aller voir de quoi a l'air la terre promise avant que le peuple y aille. Et Caleb fait partie de ces leaders-là qui étaient dans ce groupe de 12 personnes, pour 12 espions, pour aller voir de quoi a l'air la terre promise. Et avec Caleb, avait Josué et 10 autres espions. Et Caleb a vu, a sorti d'Égypte, était avec Moïse dans ce temps-là. Et Caleb a vécu d'avoir vu la terre promise, de revenir, mais il a vécu les décennies à tourner en rond dans le désert. Jusqu'au moment où c'était le timing pour le peuple de Dieu d'entrer dans la terre promise. Et on va trouver Caleb à 85 ans. Et regardez bien ce que Caleb va dire. J'arrive à la fin du message bientôt, dans Josué chapitre 14. Caleb à 85 ans, regardez ce qu'il va dire. « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, le serviteur d'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa explorer le pays comme un espion. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants, c'est de génération en génération. Pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Mais là, regardez ça. « Mais voici que l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel a dit ça à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. » Et regardez le meilleur verset de la matinée. « Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. » Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. « J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. 85 ans. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. » Caleb, 85 ans. Encore aussi robuste qu'à 40 ans. Je n'ai pas le temps ce matin d'aller en détail, mais vous lirez tout le contexte. Il dit, voici la région montagneuse. C'était la région probablement la plus difficile. Alors que Moïse est en train, avec tout le peuple, voulait alors, Josué arrive, et alors qu'ils arrivent là, ils séparent le territoire. Et il y a des territoires à séparer dans le peuple de Dieu. Mais le peuple montagneux, alors là, qui dit, allez dans les montagnes là-bas, c'était probablement la région de la terre promise la plus compliquée à les conquérir. Il y avait les montagnes, il y avait des ennemis qui étaient là. Et Caleb, rempli du feu de l'esprit, à 85 ans, il dit, donnez-moi la région la plus difficile. Il y a des ennemis là-bas. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? À 85 ans! Après 45 ans à servir Dieu, 45 ans de s'attacher aux promesses de Dieu qu'un jour je vais vivre dans la terre promise, 45 ans à tourner dans le désert, s'attacher aux promesses. Personne n'aurait jugé Caleb de dire, donnez-moi juste la région la plus calme. Donnez-moi la région la plus facile. Ça fait 45 ans que je marche avec Dieu. Ça fait 45 ans que je sers l'Éternel. Donnez-moi la région, je veux juste pouvoir me reposer avant d'aller rejoindre mon Seigneur. Donnez-moi la région la plus calme, celle où il n'y a plus de combat, celle où il n'y a plus rien. Puis je veux juste pouvoir finir mes derniers jours juste là, à attendre de rejoindre mon Sauveur. Honnêtement, j'aurais été le dernier à juger Caleb de faire ça. On aurait tous compris que Caleb fasse ça. Mais Caleb avait encore le feu dans son cœur. Caleb avait encore le feu de l'esprit à l'intérieur de lui. Il avait encore le zèle de servir Dieu, peu importe son âge. Il avait une passion dans son âme de servir Dieu encore. Est-ce que ça veut pas dire, ça veut pas dire que les rôles n'évoluent pas? Ça veut pas dire que les responsabilités changent pas? Mais j'aimerais dire à tous les rêveurs dans ce lieu et ceux qui sont en ligne, il y a pas d'âge pour la passion dans le cœur. Il y a pas d'âge pour un zèle pour Jésus. Il n'y a pas d'âge pour être en feu pour Jésus. Il n'y a pas d'âge pour avoir le feu de l'esprit dans notre cœur. Il y a des jeunes de 15 ans qui l'ont, mais j'ai prié pour des gens de 85 comme Caleb qui vont avoir le feu de l'esprit de Dieu dans leur cœur et qui vont dire, Seigneur, sers-toi de moi encore. Si tu ne m'as pas ramené auprès de toi, c'est parce que tu as encore quelque chose à faire avec moi. Et je prie pour une génération, et croyez-moi, on le prie, je le prie, pour une génération de rêveurs qui vont dire, Seigneur, sers-toi de nous encore. Oh Seigneur, remplis-nous encore. J'ai prié pour une génération de rêveurs qui va montrer l'exemple aux visionnaires qui suivent. Qui va montrer c'est quoi marcher après 45 ans, comme Caleb. Imaginez tous les visionnaires, les jeunes qui entendent Caleb parler, qui sont là à vouloir se séparer, puis Caleb qui est là, le rêveur expérimenté, qui dit, donnez-moi la région montagneuse. Si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Imaginez tous les visionnaires qui entendent ce message-là, qui entendent ça, à quel point Dieu doit servir de ce rêveur-là pour alimenter la foi et le cœur et le zèle et le feu des visionnaires. Seigneur, si tu le fais avec ce monsieur-là, tu peux le faire avec moi. Seigneur, si ce monsieur a encore le feu dans son cœur, oh, cet esprit souffle dans le mien pour que je l'aie encore à 34 ans. Ça n'a pas d'allure que je ne l'aie pas à 34 ans. Seigneur, souffle sur ma vie, souffle dans mon cœur. Donne-moi l'esprit, donne-moi le zèle que lui a. Donne-moi-le à chaque fois qu'un rêveur marche avec Dieu avec le zèle de l'esprit. Croyez-moi, vous avez une influence sur les jeunes qui sont là. Et en anglais, ils ont un bon mot pour ça, qui est le mot « impartation ». En anglais, ce mot-là, il se traduit mal en français, mais il y a une transmission qui se fait d'une génération à l'autre, qui ne s'apprend pas juste au collège biblique. Quand il y a des rêveurs qui marchent encore avec le feu de Dieu dans leur cœur, quand il y a des prédicateurs qui prêchent avec le feu de Dieu, comme moi j'ai vu Pasteur Claude depuis des années faire, je ne peux pas arriver puis prêcher en vous disant, veuillez tourner dans vos Bibles ce matin. Dans Actes chapitre 2, nous allons procéder à la lecture de la parole de Dieu ensemble. Je peux pas faire ça quand je vois Pasteur Claude qui fait ça depuis 40 ans avec le même feu encore. Je me dis, Seigneur, souffle sur ma vie à moi. Donne-moi ce feu-là, Seigneur. Donne-moi ce feu-là, Seigneur. Vous avez encore quelque chose à apporter. Vous avez encore quelque chose à apporter. On a besoin de rêveurs qui vont encourager les visionnaires. On a besoin de rêveurs qui vont prier pour eux, qui vont avoir un rôle important, qui vont avoir une influence dans l'Église. Je suis tellement touché, moi, il y a des... J'ai vraiment pas le temps ce matin, mais il y a des rêveurs autour de moi. Dans l'Église à Québec, il y a M. Matt et sa femme, Louisette, qui sont, pour moi, ils incarnent ce que c'est d'être des Caleb de 2024. C'est un couple avancé en âge qui me disent... Moi, ils m'ont... Quelques années, quand on est arrivé, ils m'ont dit, ça fait plus de 40 ans qu'on prie pour qu'il y ait un réveil à Québec. Et ce couple-là, il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive pas un texto d'un des deux ou que le dimanche, ils ne viennent pas me prendre pendant 30 secondes prier pour moi avant la réunion. Il faut me dire, avec encore des larmes, après 40 ans, ils sont juste tellement touchés par Dieu, tellement touchés par l'œuvre de Dieu. Ils veulent tellement que le royaume avance qu'après 40 ans à prier pour un réveil, ils sont là chaque semaine à venir prier. Savez-vous ce que ça me fait à moi? Je me dis, Seigneur, donne-moi leur cœur. Que je ne devienne jamais habitué de ce que tu fais. Que je ne devienne jamais blasé de ce que tu fais. Que ça ne devienne jamais normal pour moi si ce couple-là, après 40 ans, sont encore avec larmes en train de prier que Dieu touche des cœurs ce matin. Sont encore avec larmes en train de plaider pour que l'Esprit de Dieu touche des cœurs. Savez-vous ce que ça fait à mon cœur? Ça met un feu et un zèle dans le mien. Leur feu est contagieux et devient mon feu. Vous avez un rôle à jouer comme ça. Vous avez un rôle à jouer. J'ai plein d'exemples ce matin que je ne peux pas aller dans tous les exemples, mais un rêveur à notre église qui s'appelle Garlindo. Et il y a une compétition secrète entre Garlindo, qui est un rêveur, et moi, qui est un visionnaire. Qui va arriver le premier dans le stationnement de l'église le dimanche matin avant 6 heures? Et des fois, c'est Garlindo, mais je vous dis, je suis sur une séquence, que c'est moi qui arrive avant lui. Mais Garlindo, qui est un rêveur, qui est émigré ici il y a quelques années, mais qui a servi le Seigneur en Amérique latine depuis des décennies. Puis Garlindo, avant chaque réunion, il se promène rangée par rangée, puis il prie sur chacune des chaises, dans le sanctuaire, dans l'auditorium. Il prie sur les chaises. Il ne prie pas pour le tissu. Il prie pour la personne qui va être là ce matin. Mais après des décennies à servir Dieu, toute l'équipe, lorsqu'on voit Garlindo, les plus jeunes, lorsqu'on voit Garlindo encore le feu dans les yeux, en train de prier que Dieu touche des gens, il y a un feu dans notre cœur qui grandit. De dire, Seigneur, ce rêveur qui est un modèle devient modèle pour nous et son feu devient notre feu. Lorsqu'il y a une madame avancée en âge à l'église qui vient me voir il y a quelques semaines, qui me dit, Pasteur JP, moi, je ne peux pas prêcher comme vous, mais je peux bercer des bébés, par exemple. Et regardez l'image extraordinaire d'une rêveuse les dimanches, qui tient des petits visionnaires et qui prie pour eux à Nouvelle-Vie Junior. Mais ça, c'est Actes chapitre 2. Les jeunes vont avoir des visions, les vieillards auront des rêves, et c'est là que Dieu déverse son esprit, de génération en génération. Merci. Je vous invite à vous lever à votre place. Ce matin, je m'en voudrais de ne pas le faire, mais je vais le faire rapidement, mais j'ai plus de temps. Il y a peut-être des rêveurs qui sont ici au son de ma voix, où vous avez déjà servi Dieu avec passion, mais peut-être que ce feu-là et ce zèle-là a été perdu. Peut-être qu'il y a eu des blessures dans l'Église, vous avez été déçu par des gens. Vous pensiez avoir un rôle dans l'œuvre de Dieu que vous n'avez pas eu. Il y a eu des blessures qui ont été là, il y a eu des paroles qui ont été dites dans l'Église. L'Église n'est pas parfaite. Puis peut-être que vous avez été blessé, vous avez été déçu, vous avez comme jeté la serviette de servir Dieu. Vous avez comme abandonné de servir Dieu en disant, moi, j'ai déjà tellement donné. Puis maintenant, vous êtes juste placé sur les lignes de côté à regarder ce qui se passe sur le terrain de l'œuvre de Dieu. Ce matin, ça peut être le matin où vous décidez de replonger dans l'action ce matin et de dire, Seigneur, t'as encore quelque chose pour moi. Puis peut-être que t'as pas le comment, je sais pas quoi, je ne sais pas où exactement, mais ce matin, ça peut être le matin où vous décidez de dire, j'ai encore quelque chose à donner. Ça peut être d'aller Nouvelle Vie Junior bercer des enfants, ça peut être d'accueillir des gens le matin, je ne sais pas. Ça peut être d'aller des hommes qui sont ici, qui ne savent pas exactement où aller. Ça peut être d'être dans le stationnement, ça peut être d'aller à l'accueil, ça peut être d'aller à la sécurité, ça peut être juste de contribuer. Ce n'est pas juste de faire la sécurité, c'est de prier pour les gens qui sont là. Ce n'est pas juste de remplir une case de Planning Center. C'est de commencer à prier. Nouvelle Vie Junior, prier pour les enfants. Accueillir, c'est pas juste d'accueillir puis de sourire, c'est de le faire, oui, mais en priant dans votre cœur pour les gens qui sont là, de dire, Seigneur, touche sa vie ce matin. Touche sa vie. Nous avons besoin de rêveurs et rêveuses qui vont se lever ce matin, qui vont dire, moi, je suis prêt à servir Dieu encore. Je m'adresse aux visionnaires en terminant. Laisse pas ton âge être un frein à dire oui à Dieu ce matin. J'étais dans cette salle. J'étais assis dans cette section-là. Quand Dieu me foudroyait, c'est ce matin-là que j'ai décidé de suivre Dieu. J'ai décidé de dire, Seigneur, je m'en vais au collège biblique. Seigneur, je décide de te servir ce matin. Puis ce matin, si t'es en ligne, si t'es ici, ça peut être ton matin de dire, c'est le matin, j'ai pas encore le comment, j'ai pas encore le quoi, je sais pas où je vais servir exactement, mais c'est le matin où je dis oui. Et Seigneur, je prie au son de ma voix que ton esprit vienne faire ce que moi je pourrais jamais faire, mais que ton esprit vienne saisir des cœurs ce matin. Que ton esprit vienne de toutes les générations, des visionnaires et des rêveurs. Que ton esprit nous saisisse ce matin avec cette réalité et cette vision d'une église qui est multigénérationnelle. Les visionnaires et les rêveurs ensemble pour bâtir ton œuvre. Alors Seigneur, ce matin, j'ai prié que tu réveilles des visionnaires qui étaient là, qui peut-être par leur âge, par leur manque d'expérience ont toujours dit « Non, ça c'est pas pour moi, ou moi je peux pas faire ça, je peux pas y aller, ou pourquoi moi? » Puis il y a personne autour de moi qui sert Dieu comme ça. Ce matin, Seigneur, saisis leur cœur. Viens les saisir à leur place. Que ce message ne soit pas juste un message parmi tant d'autres, que ça devienne une parole de Dieu pour eux. Et Seigneur, traduis-le dans leur cœur pour que ce dimanche soit le dimanche où ils disent, oui Seigneur, je vais aller donner mon nom, je vais lever la main, je vais faire quelque chose, je vais écrire en ligne, je vais faire quelque chose, je vais dire, je veux pas partir d'ici sans donner mon nom quelque part parce que je veux répondre à Dieu ce matin, dire Seigneur, sers-toi de moi. Et Seigneur, viens réveiller tous les rêveurs et les rêveuses dans ce lieu. Et Seigneur, que ceux qui peut-être avaient commencé à acheter la serviette sur leur appel, qui avaient commencé à lever le pied sur ce que tu les appelais à faire, qui avaient peut-être décidé de se mettre sur les lignes de côté, Seigneur, je prie que tu réveilles leurs âmes ce matin et que tu les saisisses par l'impact que tu les appelles à avoir encore aujourd'hui. Que nous avons besoin, tous les visionnaires dans ce lieu, du modèle des rêveurs, des rêveuses, de leur feu, de leur passion, de leur zèle pour toi. Nous avons besoin de leur expérience. Seigneur, saisis toutes les générations ce matin. Et viens bâtir ton église, une église qui est remplie de visionnaires et une église remplie de rêveurs dans le nom de Jésus. Une nouvelle vie, est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir par la foi une église de rêveurs et de visionnaires ensemble? Et on va chanter un chant qui dit « Tu restes le même. » Tu restes le même de génération en génération. Les visionnaires et les rêveurs, commence à lever ta voix à ta place. Seigneur, tu restes le même d'une génération à l'autre. Tu restes le même.